Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la première partie de l'enregistrement de Colin Yves, réalisé le 30 mars 2009.
Parole de résistant et déporté en Dordogne. Le 30 mars 2009, à Fleurac, Monsieur Yves Colin. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Oui. Alors, je suis Yves Colin, ancien maquisard, né le 24 juin 1922 à Périgueux. Et mon nom de maquis était Roland, parce que j'avais une fausse carte d'identité où j'étais mentionné Roland Vanadi, né en Algérie, à la Seigna, département d'Oran, de part en Corse, de façon à ce que personne ne puisse rechercher l'origine.
Quelle était votre profession avant la guerre ?
Alors, j'étais étudiant au lycée de Périgueux et je me suis engagé à 18 ans et demi au 3e Hussard à Montauban. Et alors, dans l'armée d'armistice. Et alors, quand l'armée a été dissoute, évidemment, j'ai été convoqué pour le STO et j'ai refusé de partir et voilà comment j'ai pris le maquis.
Et quelle était la profession de vos parents ?
Alors, mon père était professeur à l'école professionnelle de Périgueux, qui, à cette époque-là, était occupée l'ancienne caserne, la caserne des CRS. Alors, mon père était professeur là. Et ma mère, qui était originaire du département, l'a épousée en 1920. Et moi, je suis né en 1922.
Vous habitiez à Périgueux au moment de la déclaration de la guerre.
Voilà, j'ai habité Périgueux au moment de la guerre, oui.
À quelle date êtes-vous engagé dans l'armée d'armistice ? En avez-vous le souvenir ?
Alors, ça, j'ai pas... Voyons. C'est en 41, quoi.
Et où est-ce que vous êtes engagé ?
Au 3e Hussard à Montauban.
Et qu'avez-vous fait au 3e Hussard ? Qu'avez-vous appris ?
Ce que j'ai appris, j'ai appris bien sûr à me servir des armes, à monter à cheval, etc. quoi. J'ai appris un tas de choses qui m'ont un peu rendu service dans le maquis, puisque après j'étais instructeur pour les armes légères.
Combien de temps êtes-vous resté au 3e Hussard ?
Environ 18 mois.
Et que s'est-il passé ? C'est vous qui avez quitté votre régiment ou vous avez été mis en congé d'armistice ?
Eh bien, c'est quand l'armée a été dissoute. J'ai été exclu de l'armée, par force.
Vous vous souvenez de l'année ? C'était 1942 ?
Comment ?
C'était en 1942 ?
Eh bien, c'était le 3 novembre, c'était le 11 novembre 1942 que les Allemands ont occupé la zone libre. Et c'est là que le régiment a été dissous, par la suite.
Et qu'avez-vous fait à partir de ce moment-là ?
Eh bien, je suis resté à Périgueux, parce que comme j'étais engagé, j'étais encore payé et encore pendant un certain temps. J'ai travaillé un peu à la bibliothèque municipale. Et puis je suis venu ici, à la chapelle commune de Mauzin, chez un oncle, pour l'aider à différents travaux de la campagne. Et c'est au mois de juin, donc, 43, que j'ai reçu ma convocation pour le STO. Et alors là, pas question d'y aller. Alors j'avais appris par un oncle de Périgueux que son associés s'étaient fait faire des faux papiers par un homme Goldman à la Land. Alors je suis allé à la Land voir ce Goldman pour essayer d'avoir des faux papiers, mais alors il m'a dit il est trop tôt pour former un maquis, on va te placer dans une ferme. Et alors il m'a envoyé chez Bonafi, qui était secrétaire de mairie à Saint-Marcel, avec un message, je viens de la part de Paul Horn. Et alors ce Bonafi m'a placé dans la famille Augerol à Pressignac, et j'y suis resté tout l'été, j'ai fait tous les travaux des champs. Et alors, au mois d'août, les gendarmes de la Lande sont venus dire à M. Augerol, voilà, on sait que vous avez un clandestin chez vous, on va venir l'arrêter, mais on viendra demain pour l'arrêter, et alors il faudra qu'il soit parti. Voilà. Et alors, par l'intermédiaire de Bonafi, toujours, j'ai gagné le maquis de Liorac, où on était 5 ou 6. Voilà, et j'ai fait la connaissance d'un tas de copains qui étaient là sous des faux noms. Alors, il y en a un qui me dit, en se présentant, il me dit, moi, c'est Maurice. Alors, à son accent, j'ai dit, oh, toi, tu es Ch'timi. Alors, le nom lui est resté, Ch'timi, tout le nom du maquis, à partir de ce jour-là.
Et vous avez donc connu Mireille. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, Mireille, c'était un juif d'origine polonaise, je crois. Et alors, c'était un homme moyen, mince, plutôt blond, avec des petites moustaches blondes, qui était très sympathique, qui m'a tout de suite séduit. Et alors après, il s'est révélé que c'était un chef que tout le monde aurait suivi les yeux fermés. Et c'était vraiment un homme courageux, organisé et tout.
C'était lui qui avait organisé à Liorac le maquis ?
Comment ?
C'était lui qui avait organisé le maquis de Liorac ?
Oui, c'est-à-dire qu'on était là un petit nombre, en attendant, on était ravitaillés par des paysans, et on avait comme arme un pistolet 6.35 qui nous servait à monter la garde, c'est tout ce qu'on avait comme arme.
Et vous étiez caché dans une ferme ou vous étiez dans les bois ?
Sous une tente, dans les bois. Et alors, petit à petit, le maquis s'est étoffé. Et là, on nous a transportés à Saint-Alvert, où dans le camp de Durestal, où le maquis a continué à grossir. Si bien qu'on a atteint le nombre de 2 sections, à peu près.
Ça représente combien d'hommes, 2 sections ?
Eh bien, c'est... Moi, je ne suis pas familiarisé avec les termes d'infanterie, mais une section est commandée par un lieutenant. Et alors, ça correspond au peloton dans la cavalerie. Je ne sais pas, mais mettons qu'il y ait 100 hommes par section. On a dû atteindre le chiffre de 200 hommes à peu près. Et alors, comme il n'y avait pas d'armes pour tout le monde, on a formé un groupe franc, alors le groupe des sangliers, là, une 40aine d'hommes, et à la suite de plusieurs tentatives d'attaque, on a quitté Durestal pour aller s'installer à comment ça s'appelait, au Thoriac. Et d'Itoria qu'on est allé au Maine du Puy, à côté de... comment ça s'appelle ? De Saint-Germain-du-Salambre.
Est-ce que vous vous souvenez de la date d'arrivée à Durestal ?
C'était... À Durestal ? Ça devait être fin août, début septembre.
De 1943.
43.
Et comment était le camp? Comment avez-vous trouvé le camp à cette période-là? Est-ce que vous pouvez le décrire?
Alors, le camp à cette époque, c'était un taillis d'arbres très jeunes, parce que les gens faisaient du feuillard, là. Le feuillard, c'est fait avec des pousses de châtaignier, plus ou moins fines. Alors, on en tire tout un tas de choses, des cercles de barriques, des piquets de vigne, des marquants pour la vigne, on en fait aussi des paniers. Et alors, on était là dans ce grand taillis, c'était un taillis où les arbres étaient très jeunes, quoi. C'était vraiment un fouillis, c'était pas une... Il n'y avait pas d'arbres de haute futaie. Et alors, il y avait des cabanes de feuillardiers. C'est les cabanes que construisaient les feuillardiers pour s'abriter, avec les copeaux qui restaient quand ils avaient pelé les piquets de vigne, quand ils avaient... Alors, tous ces copeaux, ils les accumulaient dessus. Ça faisait une toiture assez étanche. Et alors, il y avait 5 ou 6 cabanes comme ça. Et alors, au fur et à mesure des arrivées, on en construisait d'autres. D'une autre façon, alors, avec des planches.
Et comment est-ce que vous viviez au quotidien, tous les jours? Est-ce que pour se nourrir, pour se laver?
Eh bien, on était assez bien ravitaillés. Mais enfin, il y avait des jours avec et des jours sans. Parce que, en général, on avait toujours du vin. On avait presque toujours de la viande, mais il nous est arrivé pendant plusieurs jours de manger du fromage blanc avec des murs écrasés. Alors il y avait la corvée de murs, il y avait des grands ronciers, alors il y avait une corvée pour ramasser les murs, on écrasait ça avec le fromage blanc. Alors pendant plusieurs jours on mangeait ça. Enfin, dans l'ensemble, on était assez bien ravitaillés.
Combien de temps êtes-vous resté au camp du Restal?
Alors, au camp du Restal, de septembre à fin octobre. Et alors, dans l'intervalle, j'avais été envoyé à l'école des cadres de Pelvésie, à côté de Tamiès, pour une session qui avait duré 15 jours ou 3 semaines, je ne me souviens pas.
Et vous pouvez parler de cette école des cadres de Pelvésie?
Oui, alors cette école des cadres était dirigée par un lieutenant de chasseurs alpins qui s'appelait lieutenant Cabane, c'était un faux nom sans doute. Et alors, à la fin de la session, avec plusieurs, il y avait des Lyonnais, il y avait des Savoyards, un groupe d'une dizaine, et en voulant regagner soit Lyon, soit la Haute-Savoie, ils ont pris le train à la gare de Périgueux et ils se sont fait prendre. Et on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus, parce que comme on ne connaissait pas leur nom, on n'a jamais pu faire de recherche. Et probablement ils ont été déportés ou fusillés, on ne sait pas. On ne sait rien d'eux.
C'était une école des cadres de l'armée secrète.
Oui. Voilà, c'était l'armée secrète qui organisait cette... Alors, la première session avait eu lieu à Grenoble. Et là, c'était la deuxième. On était là à peu près une vingtaine. Alors, il y avait des Lyonnais, des Savoyards, il y avait... On était 2 Périgourdins. Il y avait des Parisiens aussi, enfin, d'un peu partout, quoi.
Elle était installée au château de Pelvésie?
Au château même. Au château même, et puis après, on a changé, on est allé dans une dépendance qui était un peu plus loin, vers les bois, pour être plus protégé, quoi.
Qu'est-ce qu'on y faisait à cette école des cadres? Vous avez le souvenir du programme?
À l'école des cadres, bon, on étudiait toutes les armes possibles et imaginables, même des armes de DCA. On avait une vieille mitrailleuse Hotchkiss, prévu pour la DCA. Et on se contentait, comme on ne pouvait pas faire de tir, on ne pouvait pas non plus dépenser des cartouches inutilement, alors on se contentait de démonter et remonter les yeux fermés. Et alors on apprenait aussi l'art du camouflage, un tas de trucs, les bombes, les grenades, le plastique, tout ça.
Est-ce qu'il y avait un entraînement physique et sportif ?
Alors, bien sûr, on faisait beaucoup de gymnastique, de course à pied à travers bois, et il fallait entretenir la forme, bien sûr.
Mais j'imagine que ça devait nécessiter une infrastructure. Les populations alentours ravitaillaient cette école des cadres ?
Ah oui, mais les voisins étaient d'accord avec nous, en principe, sauf il y avait quelques collabos qui se chargeaient de dénoncer à gauche à droite, mais et il y en avait dans le secteur là. Mais enfin, on n'a jamais été inquiété à l'école des cadres.
Oui, parce que j'imagine que la population alentour savait précisément ce que tous ces jeunes gens faisaient à Pelvézi.
Oui, d'ailleurs, quand les camarades ont été arrêtés à Périgueux, je suis resté avec un autre camarade à Pelvézi, avec Jeannot Lestan, au cas où quelques rescapés se seraient évadés et auraient regagné Pelvézi, pour les aiguiller ailleurs. Alors on était resté là pendant 2 jours, et 2 nuits, évidemment. La première nuit, on a couché dans un pré couvert de gelée blanche le matin. Et la deuxième nuit, on a couché chez les paysans, dans un bon lit avec des bons draps.
Et le propriétaire du château de Pelvézi était-il informé de ce qui s'y passait ?
Je ne sais pas. C'était un château qui était probablement abandonné. Il n'y avait pas de meubles dedans, c'était complètement nu. Et on n'a jamais su qui était le propriétaire.
Vous avez appris le sabotage également dans cette école des cadres ?
Mais moi, pas tellement. Moi, je m'occupais surtout d'apprendre aux nouveaux venus les armes et les nouvelles armes, les fameuses mitraillettes Sten, qui avaient un défaut. Enfin, elles avaient en réalité 2 défauts. Le premier, c'était de s'enrayer. Et les deuxièmes, c'était de partir toute seule quand on n'avait pas besoin. Et alors, c'était en 3 parties. C'était 3 bouts de ferraille qui s'assemblaient. N'importe quel forgeron de village aurait pu fabriquer la même chose.
Et toutes ces armes dont vous nous avez parlé à Pelvézi, c'était une instruction théorique ou vous aviez des exemplaires des armes sous les...
On avait des exemplaires d'armes. On avait des fusils Moser de l'armée allemande. Des fusils 36 de l'armée française et des mitraillettes Sten, bien sûr, et puis différentes armes diverses, on ne savait pas trop d'où ça venait, quoi. Il y avait un Colt américain, il y avait un peu de tout. Alors on faisait avec.
Et qu'est-ce que vous avez fait après l'école des cadres ? Que s'est-il passé pour vous ?
Alors j'ai rejoint le maquis. J'ai rejoint le maquis de Durestal. Et alors, il y a une anecdote assez rigolo. On est arrivé avec mon camarade Lestan le soir tard et on a regagné sans encombre notre cabane. Et alors, au matin, on se lève pour descendre à la pelle et au casse-croûte. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des Allemands dans le... Enfin, on a cru que c'était des Allemands. En réalité, c'était les Géorgiens, les premiers Géorgiens que Mireille avait fait déserter. Alors, bien sûr, mouvement de recul, et puis on a observé. Et puis on a observé qu'ils passaient leurs armes aux copains pour les faire vérifier, pour les faire... Alors, c'était des armes très sophistiquées, des fusils à répétition. Alors, ça faisait l'admiration des camarades, alors ils se passaient les armes de main en main. Alors, tout de suite, ça nous est revenu. On s'est dit, tiens, ça peut être que les Géorgiens désertent. Alors, on a été rassurés.
Et vous parliez de l'appel. Il y avait une discipline militaire à l'intérieur du camp de Durestal ?
Ah oui, il y avait une discipline militaire. Il y avait les camarades des premiers arrivés, notamment... Émile Ronza, ou plutôt Jean Ronza, dit Mimille, qui faisait fonction d'adjudant. Alors c'est lui qui faisait faire l'école du lapin, c'est-à-dire le parcours du combattant, si on aime mieux, on appelait ça l'école du lapin. Alors il n'était pas tellement apprécié à cause de ça, mais enfin, après ça, comme il a été arrêté avec nous, c'était quand même un bon camarade. Alors tous ceux qui avaient fait l'armée, comme moi, on était instructeurs pour les nouveaux arrivants. Il y avait un de mes camarades qui avait fait l'école des mousses, qui était dans la marine, et qui était instructeur aussi, comme moi.
Et il y avait une heure de lever et un couvre-feu, comme dans une caserne militaire ?
Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sonnerie de clairon, par discrétion, ni de trompette, mais enfin il y avait un appel, il y avait les gardes avec le chef de garde, en général une dizaine, avec un responsable pour répartir les gardes et faire des rondes, et... Il y avait le mot de passe, bien sûr, tous les jours ça changeait. Mais à part ça, il n'y avait pas de levée de drapeau ni de sonnerie de trompette.
Certains disent que dans le camp, il y avait une ligne d'électricité clandestine. Est-ce que vous l'avez vu, ça ?
Ah ben non, mais les camarades avaient installé le téléphone entre le PC et le magasin et l'armurerie. Mais ça marchait tellement bien que il fallait sortir devant la porte et crier « Hey, je te téléphone !»
Donc, c'était pas très efficace.
Non, pas très. Enfin, c'était un essai. Comme on est parti peu de temps après, on n'a jamais pu le modifier ni le perfectionner.
Donc, vous dites qu'il y avait quand même un poste de commandement, une armurerie et toute une infrastructure.
Il y avait l'armurerie, il y avait la soute à munitions, il y avait un armurier qui réparait, qui ajustait les armes, qui refaisait même certaines pièces. Il y avait un magasin bien rempli, parce qu'on avait pillé, les magasins d'un camp de jeunesse à Barbaste. Alors on avait un magasin plein de blousons de cuir, de culottes kaki, de bérets basques, de godasses. Alors, le magasin était plein.
Et dans les cabanes de feuillardiers, vous dormiez à même le sol ou vous aviez des petits guides camps?
Alors, dans ces cabanes, on avait aménagé, parce que comme le sol de cette forêt est plutôt sableux, alors c'était facile de creuser. Alors, ce qu'on faisait, on creusait au milieu de la cabane pour faire un talus de chaque côté. Et alors, on mettait des lattes de châtaigniers couverts de fougères. Ça faisait un matelas, on dormait mieux que chez soi. On était très bien.
Et ça protégeait de l'humidité, mais le froid devait être difficile.
Alors, quand il y a eu des orages, quelquefois, il y avait quand même des gouttières dans le... Enfin... Vous savez, à cet âge-là, on peut supporter pas mal de choses.
Certains témoins disent qu'il y avait également une prison à Durestal. Oui. Est-ce que c'est exact ?
Oui, alors cette prison, on avait simplement mis un toit et puis entouré de barbelés. Il n'y avait pas de mur, mais c'était des barbelés, ce qui fait que la prison, quand même, était bien efficace. Alors, le premier prisonnier, ça a été Fautré. et qu'on avait arrêté à Vers parce qu'on avait entendu dire que le jour du baptême de sa fille, c'était Darnand qui devait être parrain. Et alors on était allé là, surtout pour arrêter Darnand. Mais Darnand n'étant pas là, on a emmené Fautré avec son cochon. Et alors Fautré est resté quelque temps au camp. Il faut dire que la prison servait aussi les hommes qui montaient la garde couchaient dans la prison avec le prisonnier. Et alors c'est Fautré qui réveillait les factionnaires pour aller prendre la faction. Parce qu'on s'est bien rendu compte tout de suite que c'était un bonhomme inoffensif. Et alors, on l'a libéré, bien sûr. Et alors, quelques temps après, comme il avait fait du marché noir, le contrôle économique l'a inquiété. Et ses copains, le croyant mort, avaient tout mis sur son dos, ce qui fait qu'on l'a retrouvé en prison. Et alors, bien sûr, il a été libéré quelques temps après. Et de chez lui, il envoyait des colis pour les gars du groupe Mireille, à la prison de Périgueux. Alors, c'était le premier prisonnier. Et le second prisonnier, c'est un gars qu'on avait arrêté à Bergerac, avec sa maîtresse. On a toujours supposé que c'est sa femme qui l'avait dénoncé. Et alors, étant au maquis, il a dit, voilà, il est possible que ce soit ma femme qui m'ait dénoncé, mais il est possible qu'elle m'ait dénoncé aussi à la Gestapo. Alors, je vais rester au maquis avec vous. Il est resté 15 jours, et comme il était mécanicien, c'est lui qui s'occupait du service auto. Alors, voilà notre second prisonnier. Et après, il n'y en a pas eu d'autres parce qu'on est parti.
Il y avait donc un service auto également.
Ah oui, il y avait les camions. Il y avait une voiture licorne qui était rouge, je me souviens. Il y avait une fourgonnette, une bétaillère et puis un camion. Un camion avec les pneus lisses et qui marchait au gazogène d'ailleurs. Et qui marchait pas très bien. Et un jour, on avait fait un coup de main. On était allé chercher 1000 litres d'essence, faucher 10 000 litres d'essence dans un dépôt aux environs de Bergerac. Et alors, les gens nous attendaient, les gardiens du dépôt, un homme et une femme, nous attendaient. Mais on n'en savait rien. Nous, on arrive là, revolver au poing, haut les mains. Ah, ils nous disent, les gars, on vous attendait. Alors, il y avait les biscuits et le vin blanc sur la table de nuit. on était deux à manger des gâteaux et à boire le vin blanc. Pendant ce temps, les copains chargeaient les bidons d'essence, une dizaine, des bidons de 200 litres. Et alors, on les voyait parvenir. Et finalement, c'est parce que le camion étant trop chargé, ne pouvait plus partir. Les pneus étaient lisses. Alors, il avait fallu redécharger le camion, le pousser un peu plus loin et le recharger après. Ce qui fait que les camarades qui se sont occupés du chargement des camions n'ont pas mangé de biscuits ni bu du vin blanc.
D'accord. Et les véhicules étaient cachés à Durestal, les véhicules dont vous parlez ?
Oui, alors les véhicules étaient cachés parce qu'il y avait trois, on appelait ça des points de chute. Il y avait trois points de chute, des endroits où on arrivait et d'où on partait. Alors, il y avait le point de chute numéro 3, un bout de chemin où il y avait un grand rancier où les voitures étaient cachées. D'accord. Les voitures et les camions étaient cachés là.
Et où étaient les autres points de chute? Vous en avez le souvenir?
Alors, il y en avait un au bord de la route. Et voyons. Il y en avait un à la source. La source, la fonte du but. Où se trouve maintenant la stèle. Alors, il y a une source au pied de la stèle, c'est la fonte du but. C'est là qu'on se ravitaillait en eau. Et c'était un des points de chute, là.
Et tout à l'heure, vous parliez d'hommes qui étaient en faction et qui assuraient la surveillance du camp.
Comment ?
Vous parliez d'hommes qui assuraient la surveillance du camp. Comment était-elle assurée, la surveillance ? Il y avait des rondes autour du camp ?
Alors, il y avait un copain qui faisait fonction de caporal. Et alors, les jours de garde, il avait une dizaine de camarades qui montaient des factions diverses. Et alors, lui, il devait faire une ou deux rondes autour du camp, avec un ou deux copains, armés d'un colt américain. Alors on faisait le tour du camp, et puis, en général, il n'y avait rien à signaler, quoi. Alors, il y avait les factions, il y en avait une à la source, premier point de chute, une au deuxième point de chute du côté de la route, et la troisième, alors c'était des factions de 2 heures ou de 4 heures, suivant le cas. Alors il est arrivé, une fois un camarade, nouveau venu, on l'avait mis à la garde à la source. Et alors, il entendait les châtaignes tomber, et il n'était pas très rassuré, il faisait les sommations, et personne ne répondait. Et il a tiré un coup de mitraillette en l'air pour avertir. Et puis, forcément, l'alerte a été donnée, etc. Et il s'est fait bien relever les bretelles.
Les factions avaient-elles lieu 24 heures sur 24 ?
Comment ?
Les factions avaient-elles lieu 24 heures sur 24 ? Le camp était-il surveillé ?
Ah ben oui, jour et nuit, ah oui, tout le temps.
Et certains témoins disent qu'il y avait également une cuisine organisée au sein du camp, qu'il y avait un cuisinier. Est-ce que vous l'avez connu ?
Oui, il y avait un cuisinier, qui existe encore d'ailleurs, qui habite Bergerac, René Huguenot. C'était son métier d'ailleurs, ses parents étaient hôteliers à côté de Paris, là, à Argenteuil. Et alors c'est lui qui faisait le cuisinier, il cuisinait d'ailleurs très bien. Il arrivait à tirer de n'importe quoi, des choses assez bonnes. Et alors il était aidé avec un autre, René Delbousquet, qui habite à Fossemagne, qui existe encore d'ailleurs. Et c'est lui le second cuisinier. Alors quand on partait en coup de main, en revenant au milieu de la nuit, on avait droit à un bon casse-croûte.
C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.